Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que t'es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où qu'on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Bonjour, mon cher Manu, comment vas-tu?
Yes, sir, en forme, toi?
Yes, en pleine forme. Avant de commencer officiellement, d'habitude, je demande tout le temps le parcours un petit peu rapidement. Toi, je sais que tu as fait des centaines de podcasts que tout le monde peut aller écouter si tu connais pas Manu. Mais mettons, en une minute, tu serais-tu capable de dire un bref résumé de toi?
17 premières années à penser que je suis une victime, découvrir la croissance personnelle et l'entrepreneuriat, complètement changer mon mindset et ma façon de percevoir la vie ainsi que moi-même, aider les gens à réaliser qu'ils sont libres.
Yes, c'est une machine! Si vous voulez en savoir plus, allez voir d'autres podcasts.
Aimes-tu mieux que je t'appelle Espace ou Tonique d'ailleurs?
Moi, j'aime mieux Tonique.
Okay.
C'est plus bon. Personnalisé. Okay. Monsieur Tonique. J'ai une question que je me pose énormément souvent, j'aimerais t'entendre là-dessus. Pour toi, là, c'est quoi la différence entre persévérer dans quelque chose puis, au contraire, lâcher prise à un moment donné?
Je pensais que tu allais dire la différence entre persévérer puis s'acharner.
C'est une bonne question aussi. Vas-y donc celle-là en premier.
je pense que c'est une question, souvent, c'est une question de cohérence par rapport à soi-même. C'est d'être à l'affût de nos propres feelings puis de les écouter. Puis d'oser voir en profondeur d'où est-ce qu'ils viennent. Parce que des fois, tu peux penser que « Ah non, je le sens pas, c'est pas fait pour moi. » Puis penser que c'est un signe. Ou tu peux creuser plus creux et réaliser que c'est de la peur, en fait. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que c'est important, je pense, pour justement déterminer c'est quoi la différence entre persévérance, acharnement, tout ça, de voir si on fait le travail puis qu'on voit vraiment une couche, deux couches, trois couches plus creux, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi les réelles peurs? Puis c'est quoi les réels désirs? Puis une fois qu'on a exploré ces options-là, là, on peut mieux faire la distinction entre si c'est parce que, justement, I give up ou c'est que, justement, on a peut-être réalisé que c'était pas fait pour nous.
Ouais, parce que c'est-tu la même réponse que tu donnerais face à la première question de persévérer et lâcher prise? Un moment donné, faut que tu lâches prise, puis un moment donné, faut que tu continues de persévérer pour réussir aussi.
Je pense que c'est une question d'à quel point tu sens que tu veux quelque chose ou que tu as besoin de quelque chose. Tu sais, par exemple, je vais jamais lâcher prise par rapport à ma condition physique. Tu sais, oui, je veux être en santé, mais j'ai besoin d'être en santé pour fonctionner. C'est important pour moi d'avoir une bonne hygiène de vie, de prendre soin de mon véhicule. Donc, c'est sûr que si j'ai moins le goût de prendre soin de moi, j'ai moins le goût de bien manger, ben, tu sais, je vais persévérer en ce sens, puis je vais pas éventuellement lâcher prise en me disant, ah, regarde, dans le fond, à quoi bon? Fait que c'est une question d'évaluer à quel point est-ce que quelque chose est fondamentalement important pour toi, puis là, ben tu sais quoi faire.
Puis, mettons, dans ton exemple de gym, si tu dis un objectif de, je sais pas, je veux faire 150 livres au bench, peu importe, puis que là, t'atteins pas cet objectif-là, c'est quand tu te dis, j'arrête, c'est trop pour moi ou je fais trop d'énergie là-dessus ou...
Ben, ça revient à la question, puis souvent, j'aide mes clients justement à faire la différence entre qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, parce que tu sais, si tu dis, je veux atteindre 150 livres au bench, moi, la première question que je te pose, c'est pourquoi c'est important pour toi? Mm-hmm. Parce que tu sais, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est parce qu'on imagine qu'une fois qu'on va l'avoir, on va obtenir un feeling.
Ouais.
Tu te dis, si je fais 150 livres au bench, je vais me sentir de telle façon. Fait que ce que j'aide souvent mes clients à faire, c'est de leur poser simplement la question, on va creuser de plus en plus creux, pourquoi tu veux ça? OK, puis la réponse, pourquoi tu veux ça? La réponse, pourquoi tu veux ça? On descend 7 niveaux plus bas, puis on trouve fondamentalement ce dont la personne a besoin. Puis qu'après ça, on l'associe à un feeling, parfait. Comment est-ce que tu peux faire déjà, ici et maintenant, dans l'instant présent, sans absolument, tu sais, il n'y a pas de transformation totale dans ta vie ou n'importe quoi, comment est-ce qu'on peut faire pour ressentir un petit peu plus déjà aujourd'hui ce feeling-là? Puis le fait de se ramener dans le présent, souvent, ça enlève l'espèce de quête qu'un jour, on va sentir de telle manière si on réussit telle chose. C'est, si j'ai telle promotion, si je bench 150, si telle personne me rappelle, si on est beaucoup dans l'appréhension du futur. Mais en se ramenant dans les sensations qu'on veut ressentir, on est beaucoup plus capable de rester en contrôle puis dans le présent, je trouve.
Parce que c'est vrai ce que tu dis, si tu comprends le besoin fondamental que t'as, c'est pas nécessairement de bencher 150 livres qui va t'amener ce que tu veux, dans le fond.
Et le niveau de libération que ça apporte, des fois, d'arrêter de vouloir quelque chose, là, c'est aussi satisfaisant que de l'atteindre. Quelqu'un, par exemple, qui se considère comme un 8 sur 10 au niveau entrepreneurial, puis il me dit que son objectif, c'est d'être un 9 sur 10. J'ai dit, OK, parfait. Comment est-ce que tu penses que tu vas te sentir à 9 sur 10 par rapport à comment tu te sens en ce moment à 8 sur 10? Puis la personne, par exemple, elle va me dire, ben, j'ai l'impression que je vais me sentir plus libre, j'ai l'impression que je vais me sentir plus leader, un meilleur, peu importe. Puis là, je dis, OK, parfait. Est-ce qu'il y a moyen, tu penses que tu puisses ressentir toutes ces belles choses-là déjà en ce moment sans nécessairement changer quoi que ce soit dans ta business ou dans tes revenus?
Mm-hmm.
Puis là, on trouve des moyens concrets. Puis soudainement, la personne, elle se rend compte que je peux enfin arrêter de mettre la pression requise avec l'atteinte de tel niveau d'excellence parce que ce que je recherche, dans le fond, je le porte déjà en moi ou c'est beaucoup plus accessible que je pensais. Puis ça, c'est un switch incroyable parce que la plupart des gens sont pas malheureux à cause de leurs circonstances. La plupart des gens sont malheureux à un certain niveau à cause de la différence entre leurs circonstances et ce qu'ils pensent que leur vie devrait être. Puis c'est là que réside la douleur, finalement.
Puis je t'ai déjà entendu dire, je sais pas si c'était où, là, mais que justement, des fois, le step entre le tu veux-tu être 8 à 9 ou 9 à 10, c'est énorme ce que ça...
C'est un univers de différence.
Exactement, ouais. Fait que c'est un peu ça aussi, c'est à quel point que tu as besoin de ce que tu veux, tu sais.
Ben, c'est la différence entre dire, est-ce que je suis bon au basket? Oui. Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour être des meilleurs joueurs du Canada? Non. Puis est-ce que je serais prêt à faire ce qu'il faut pour être un des meilleurs joueurs au monde? Absolument pas. Parce que justement, il y a des univers de différence. Puis tu sais, passer de 6 à 8 sur 10 dans un domaine, c'est beaucoup plus facile, même si ça représente 2 points sur l'échelle, que de passer de 9.5 à 9.6. Là. Parce que rendu à un niveau élite, la quantité, peu importe le domaine, professionnel, personnel, athlétique, artistique, la quantité d'efforts, de sacrifices qu'il faut faire, c'est complètement
c'est débile,
différent.
Ouais. Puis ça m'amène un peu à... Comment tu vois les objectifs, les rêves, ce qu'on veut faire dans la vie? Comment tu vois ça? Parce que j'ai un gros questionnement, mettons, depuis 2 ans. J'ai réalisé, tu sais, avant ça, là, j'ai réalisé bien des rêves, des objectifs que j'avais. Puis je trouvais ça super cool, puis j'étais motivé. Puis là, j'ai réalisé que, bon, c'est bien beau faire un rêve, mais tu sais, le chemin du rêve, il est pas mal plus cool que la journée que tu dis « je l'ai atteint ». Ben là, tu l'as atteint, c'est bien beau une journée, deux journées, mais c'est tout ce chemin-là qui est cool.
Ben, c'est comme changer de véhicule, puis au début, t'es comme « wow », puis après ça, après 3 mois, tu sais, il y a une frite entre 2 bandes, t'es comme « bon, je la ramasse pas », tu sais.
C'est pas grave. Mais là, aujourd'hui, je me questionne encore à savoir... Je suis mieux de mettre plein d'objectifs qui mettent quand même de la pression que je dois faire des choses pour réaliser ces objectifs-là ou je devrais simplement juste être et être bien dans peu importe les situations.
Tu peux mixer les deux. C'est une question de dosage. Tu peux avoir des objectifs à l'extérieur de toi. Tu peux avoir des objectifs à l'intérieur de toi par rapport à qui tu veux devenir comme personne. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, c'est pas pareil de dire j'ai un objectif de faire 3 millions de plus cette année, il va falloir engager telle personne, ouvrir tel pays, commercialiser tel produit, que de se dire moi cette année j'ai envie de travailler sur ma patience, j'ai envie de travailler sur ma tolérance, puis j'ai envie de faire un petit peu plus de bénévolat ou de prendre plus de temps pour connecter avec ma famille. Ces objectifs-là qui sont à l'intérieur, c'est des objectifs qui te permettent de reconnecter qu'une version de toi avec laquelle non seulement, oui, tu as la fierté d'atteindre l'objectif, mais après ça, tu portes cette nouvelle version de toi-même-là comme un cadeau à tous les jours, finalement, que tu te fais à toi-même puis que tu fais aux autres. Fait que ça, c'est un grand changement qui a eu lieu dans ma vie début vingtaine. C'est quand j'ai commencé à réaliser à quel point c'était beau et bon de poursuivre un objectif par rapport à l'homme que je voulais devenir, au lieu d'être obsédé par les objectifs extérieurs par rapport à des revenus, par rapport à la carrière, par rapport à des accomplissements. Puis... C'est beau d'avoir des rêves, c'est beau de se dire un jour j'aimerais aller voir tel artiste que j'adore dans un concert en Irlande. Parfait. Mais il y a une grande différence entre se mettre de la pression avec certaines choses.
C'est ça.
Puis la pression, j'en ai parlé souvent dans des podcasts, ça vient du fait d'être pressé. Si tu te dis parfait, je dois avoir réalisé tel rêve pour la semaine prochaine, automatiquement tu files pas bien dans le processus. Mais si tu te dis un jour, parfait. Si tu te dis dans 10 ans, c'est toujours une question de dosage.
Mais même quand c'est dans l'être, là, mettons que je veux traiter ma patience, comment tu te définis pour pas avoir cette pression-là de dire, bon, là, faut que je sois patient, là, faut que je m'améliore là-dedans, faut que je prenne du temps pour faire ça.
Une phrase simple, de plus en plus ou de mieux en mieux. C'est que c'est pas je suis patient, je suis pas patient, je suis de plus en plus patient. C'est le travail d'une vie, peut-être. C'est le travail des 20 prochaines années, peut-être, ou peut-être que dans 4 ans, tu vas te considérer comme patient. Mais quand tu sens que tu es sur ton chemin, tu t'autorises à faire des pas de l'arrière, tu t'autorises à faire des erreurs, Puis cette compassion-là envers soi puis envers son chemin dans le processus, c'est ce qui fait ultimement toute la différence dans l'impression de « voyons, je suis pas capable, voyons, c'est trop long, voyons, je me décourage » versus d'accepter que ultimement, c'est pas une course.
Ouais. Puis ça, c'est très bon conseil pour l'être. Dans le faire ou avoir, as-tu le même principe pour pas avoir cette pression-là?
Ben, tu sais, je te dirais que mon premier livre, mettons, ça m'a pris 9 ans de l'écrire, là. Fait que je suis capable d'accepter que certaines choses prennent du temps, puis qu'il y a un processus, puis tu sais, c'est pas parce que j'écris le premier en 9 que je me dis, faut que j'écrive le premier plus rapidement.
Ouais.
Puis ça, c'est un bon exemple, parce que en ce moment, dans ma vie, j'ai des priorités au niveau de mon corps, j'ai des priorités au niveau de ma carrière, j'ai des priorités au niveau de mes connexions humaines, puis j'ai des priorités au niveau de ma conscience, puis de l'homme que je deviens. Si, dans mes habitudes hebdomadaires, j'ai des choses qui font en sorte que j'améliore ces 4 piliers-là, et que ça donne qu'écrire un deuxième livre n'est pas prioritaire, ben je vais pas skipper le gym, par exemple, pour écrire un livre, alors qu'ultimement, j'ai déjà mis en place les stratégies puis ce qu'il me fallait comme habitude pour obtenir la vie que je veux puis être la personne que je veux. Fait que c'est de s'enlever à un moment donné la pression avec certaines choses qu'on dit vouloir, mais que dans le fond, faut juste réaliser que c'est pas vrai, que c'est si important que ça. J'aimerais écrire un deuxième livre. Il y aurait un impact positif. Est-ce que j'ai besoin d'écrire un deuxième livre? Pas du tout. Est-ce que si je meurs et je n'ai pas écrit ce deuxième livre-là, c'est grave? Pas du tout. Mais c'est d'accepter ça.
Ouais. Puis tu le priorises comment? Parce que aussi, c'est tough. T'as tout le temps 17 affaires que tu veux faire.
Ouais.
Puis il faut que tu dises non à 16.
Ouais. Ben, tu vois que c'est le plus important pour toi. C'est pas pour rien que j'écris pas en ce moment. Je ne travaille pas du tout sur mon deuxième livre en ce moment. Puis la raison est simple, ce n'est pas prioritaire. Fait que c'est de vraiment bien se connaître. Puis c'est ça la base. C'est que souvent, on est juste dans le faire puis on oublie de se prendre une pause pour se demander « OK, mais est-ce qu'en ce moment, je fais parce que je suis sur le pilote automatique de la version de moi que j'étais il y a 3 ans ou j'ai pris le temps de m'arrêter puis de m'aligner puis de vraiment me rendre compte « OK, mais j'en suis où aujourd'hui par rapport à ça? » Parce qu'on évolue, tu sais, on évolue au fil de nos relations, au fil de nos accomplissements, au fil de nos échecs. Puis c'est important de prendre le temps de se le demander « Est-ce que j'ai le souvenir que je voulais ça, donc je suis attaché à ça, à cette idée-là?
Ouais, je comprends.
Ou est-ce que vraiment je le ressens dans le moi que c'est définitivement ça en ce moment qui est aligné avec ce que je veux?
Puis quand, parce que ça m'est souvent arrivé de faire un plan, mettons, sur 1 an ou sur 5 ans, qui est super beau, puis là, je dis, OK, je vais faire ça ce mois-ci, l'autre mois, l'autre mois, l'autre mois. Puis au final, on dirait que t'évolues. Puis là, il y a des affaires, disons, mais je veux faire ça aussi. Puis là, j'en mets une plus, puis une plus. T'as-tu de quoi pour ça?
Ben, c'est sûr que ça dépend, tu sais, si on parle au niveau business, au niveau projet personnel, tu sais, parce que, je veux dire, il y a des structures. C'est sûr qu'en entrepreneuriat, si t'as une structure de croissance qui te permet justement d'ajouter des projets puis tout ça, fine. Mais si tu perds ton équilibre à travers ça, ben c'est là que ça devient plus problématique. Fait que, tu sais, oui, il y a des skills à aller chercher pour bien gérer sa vie, gérer son horaire. Qu'est-ce qu'on accepte ou non? Tu sais, moi, j'ai une espèce de matrice que j'aime bien utiliser qui implique plusieurs autres matrices, tu sais, dans le sens, tout le monde connaît le principe de important, urgent, important, non urgent, tu sais, non urgent, et ainsi de suite. Tout le monde connaît aussi le principe du 80-20, tu sais, que ce qu'on fait 20% du temps donne 80% des résultats. Fait ou du principe de big rock, small rock, sand. Mm. Fait que j'utilise tous ces espèces d'outils-là de priorisation pour évaluer est-ce que cette tâche-là ou est-ce que ce projet-là est vraiment aligné. Fait que, tu sais, si je me rends compte que, OK, fine, ça a l'air prioritaire, ça a l'air important, mais je regarde, ça m'apporte-tu de l'énergie ou ça me draine? Je me rends compte que ça me draine. Pourquoi je le fais? Fait que des fois, c'est d'accumuler ces petites questions-là pour avoir un super bon protocole d'évaluation, pour être en mesure de se demander. Tu sais, souvent, notre fléau, c'est pas qu'on manque d'idées, c'est qu'on a trop d'idées, là.
Ben oui, clairement.
On veut trop faire de projets, on veut trop faire de choses. Puis, je pense que c'est une des choses qui est les plus belles à propos d'avoir des objectifs justement en soi puis d'être heureux par rapport à ça principalement, c'est qu'on est plus capable, on est plus capable facilement de refuser nos propres idées, nos propres options, nos propres projets parce qu'on sait qu'ultimement, c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Fait que tu sais, quand tu as une super bonne idée, tu dis « Ah, je veux créer une fondation pour aider telle personne puis tout ça », mais c'est que tu te demandes, OK, ce que ça va demander en termes de ressources, de temps, d'argent, d'effort, d'énergie, de service, de contribution, de staff, est-ce que ce que ça va rapporter de l'autre bord en termes d'investissement, ce que ça rapporte en termes de bonheur, d'impact, de ci, de ça, est-ce que ça le vaut vraiment? Parce que tu sais, tous les chemins peuvent mener au bonheur, comme tous les chemins peuvent mener au malheur. C'est juste une question de comment tu gères ta route puis comment tu la planifies, puis c'est quoi les outils que tu mets en place. T'sais, si je te dis hey, on s'en va à Québec en fin de semaine, ça se peut que tu sois excité, t'es comme ah good, ça va être le fun. Si je te dis on y va en skateboard, là il y a comme un ah tac et ouais, puis là la semaine d'après je te dis on retourne à Québec en skateboard, puis là c'est comme ton est projet de skateboard Québec,
tu lâches ça, reviens-en.
Ben c'est ça, fait que tu sais c'est souvent une façon de comment tu voyages vers plutôt que le projet en soi. Par exemple, je sais que si en ce moment je me disais mon deuxième livre, je vais l'écrire pendant les trois prochaines semaines, je mets tout ça à glace, je vais revenir, ça va être le chaos, je vais revenir, ça va être difficile. Mais si je me dis éventuellement, je sais pas, moi, je vais le placer d'une manière à ce que quand je pars en voyage, ben le matin, j'écris. Mais ça se peut que ce soit plus propice, ce soit plus approprié, ce soit plus... mais c'est tout le temps une question de gestion de ressources.
Ouais, c'est ça. Ça revient souvent à ça, veux pas. Là. Mm. Puis, selon toi, es-tu mieux de travailler sur ta force ou ta faiblesse?
Les forces.
Les forces,
définitivement. Ouais. Définitivement, parce que il y a toujours des gens qui vont être meilleurs que nous dans des choses, que ça va être moins forçant pour eux, que ça va être le fun pour eux à limite. Puis, tu sais, je fais juste m'imaginer aujourd'hui, 90% de mon quotidien, des choses que je faisais avant sont déléguées pour que je puisse me concentrer à mes zones de génie. Puis ces zones-là me font triper. Ces zones-là utilisent ma créativité. Dans ces zones-là, je suis capable de mieux servir. Tu sais, une des raisons pourquoi je peux être ici aujourd'hui puis enregistrer un podcast avec toi puis partager un message, c'est parce que j'ai quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux, j'ai quelqu'un qui gère, tu sais, 90% de ma vie. Donc, j'ai le temps de faire ce que j'aime, ce qui me demande pas d'énergie, ce qui me vivifie, puis ce qui a un impact positif en plus.
Mm-hmm.
Fait que pourquoi je voudrais faire les choses différemment, tu sais.
Puis, quand t'es sur des faiblesses, quand t'as une faiblesse, tu penses qu'il faut quand même travailler ça, même s'il faut mettre moins peut-être d'énergie?
J'ai une réponse un peu philosophique par rapport à ça, là, mais le meilleur moyen dans une pièce qui est sombre de régler le problème de la noirceur, c'est pas de combattre la noirceur, c'est d'allumer la lumière.
Mm-hmm.
Puis il y a du monde qui se battent contre la noirceur jour et nuit, puis ils essayent de contrer leur faiblesse, ils essayent d'améliorer telle affaire, ils essayent de régler tel problème, alors que des fois, tu fais juste, tu sais, comme, même si c'est des nuages, là, le soleil, il est là derrière. Là. Fait que des fois, puis ça peut paraître comme improductif ce que je vais dire là, mais des fois, t'as pas besoin de régler, t'as juste besoin de lâcher prise. Puis il y a des affaires qui avaient de l'importance qui arrêtent d'en avoir. Tu sais, le meilleur moyen de régler un problème, c'est de réaliser que c'est pas un problème. Par définition, un problème dans le dictionnaire, c'est situation ne correspondant pas aux attentes que nous avons face à celle-ci. Quand on réalise ça, là, ah ben, je pensais qu'elle m'aimait, elle m'aime pas, j'ai un problème, il y a une différence entre mes attentes et la réalité. Fait que ce soit en affaires ou dans la vie personnelle, quand tu réalises que, OK, mes problèmes, dans le fond, là, c'est à cause de mes perceptions ou mes lacunes, ou tu sais, mettons, j'ai une faiblesse, puis je vais me dire, c'est la comptabilité. J'ai de la misère avec mes chiffres, whatever. Pourquoi est-ce que j'essaierais? Tu sais, oui, il y a un niveau de base que tu peux aller genre vérifier et comprendre pour être capable de déléguer efficacement. Mais il y a des gens qui adorent faire ça. Il y a des gens qui sont bons là-dedans. Il y a des gens que c'est leur zone de génie. Fait que pourquoi, mettons, se concentrer à régler nos lacunes ou quoi que ce soit tant que ça nous nuit pas de façon genre majeure ou que ça nuit pas aux gens dans notre environnement? Puis tu sais, je travaille sur moi constamment. Là. Fait que oui, je travaille de façon en développement personnel sur les choses que je veux améliorer chez moi. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui ont disparu naturellement parce que je me suis concentré sur mes forces.
Ah ouais. Puis t'as-tu un exemple, mettons, de choses que tu sais qui ont que ça s'est enlevé en travaillant sur ta force, justement?
Ben, exemple, si je me concentre sur devenir quelqu'un qui est le plus authentique possible, j'ai pas besoin de retourner faire du ménage dans mes amitiés puis d'avoir les conversations difficiles ou de décider toi t'es encore mon ami, toi t'es plus mon ami, toi une fois de temps en temps, parce que l'authenticité que je travaille à droite crée le filtre naturel à gauche. Fait que je m'optimise, puis la version optimisée de qui je deviens crée une espèce de ménage automatique.
Puis je sais que tu as déjà parlé de ça, que dans ton parcours, tu avais comme mis des 10 choses ou 12 choses que tu voulais améliorer.
Ouais.
Pourquoi ces choses-là, si tu veux les améliorer, puis c'est pas des forces, c'était des faiblesses? Là.
Exact. Ben c'est parce que justement, aujourd'hui, au moment où on se parle, ça va faire bientôt la moitié de ma vie que je fais du développement personnel. J'ai commencé à 17 ans, je vais avoir 34 ans l'année prochaine. Fait que ça va faire littéralement autant de temps que je suis dans le développement perso que de temps que je le suis pas. Fait que c'est sûr que dans les premières années du développement personnel, ben l'objectif principal, c'est de sortir de sa propre souffrance. C'est pas de l'optimisation, c'est de sortir de ses patterns, c'est de sortir de ses croyances limitantes, c'est de sortir de son impression de pas avoir de contrôle, d'être une victime, de prendre ses responsabilités beaucoup aussi au début, d'arrêter de pointer du doigt. Fait que c'est sûr que justement l'exercice dont tu parles, d'aller chercher mes 12 défauts principaux puis de réussir à les travailler de façon intensive pendant 12 mois d'affilée, un défaut par mois, c'était un exercice qui était extrêmement puissant parce que à l'époque, j'étais capable de dire que ma susceptibilité me nuisait et nuisait aux autres. Mon impatience me nuisait et nuisait aux autres. Mon manque de ponctualité, toutes ces caractéristiques-là avaient des impacts négatifs dans ma vie. Au moment où on se parle, si tu me demandes genre d'évaluer, c'est quoi, Manu, les gros red flags ou les grosses choses de ta vie, tu sais, qui te font du mal à toi ou qui font du mal aux autres, j'aurais de la misère à en trouver parce que je suis fondamentalement en paix, j'assume mes choix, je suis en cohérence, je suis aligné, je prends les décisions qui me font sentir bien. Puis j'ai vraiment à cœur que les gens autour de moi s'élèvent et soient heureux. Fait que c'est sûr que j'ai moins à aller consciemment travailler dans des zones d'ombre parce que ça fait 17 ans que je les travaille. Ouais, puis ça, là, c'est ça que les gens aussi doivent réaliser, c'est que la croissance personnelle, c'est très différent. Genre, travailler sur soi, c'est différent d'évoluer. Évolution ne veut pas dire croissance, évolution ne veut pas dire progression. On va changer tout au long de notre vie, tu sais, on va rencontrer des gens, on va vivre des relations, on va avoir des échecs, des défaites, des belles victoires, puis oui, on change. Mais travailler sur soi, c'est pas pour rien qu'il y a le mot travailler.
Ouais, c'est ça.
C'est parce que ça demande un effort conscient, ça demande un plan de match. Puis évidemment, tu regardes, mettons, le Manu qui a jamais lu un livre de sa vie, puis le Manu qui est rendu à 400 livres de lus sur le comportement humain, sur le cerveau, sa psychologie, ses patterns, ses croyances, c'est impossible que ce soit la même personne. Parce que toutes les connaissances que je suis allé chercher, les formations que je suis allé chercher, les compétences que j'ai acquises au fil des années font en sorte que c'est inévitable. Tu comprends? Mm-hmm. C'est comme quelqu'un qui voudrait ne pas changer son corps, mais qui s'entraîne à tous les jours, systématiquement, puis qui mange bien. C'est ouais, inévitable. C'est fait que je pense que c'est important de... Puis là, on pourrait aller dans tellement de directions. C'est juste de vraiment prendre conscience que hey, la croissance, là, c'est pas just for fun la fin de semaine quand t'auras le temps. Là, c'est hey, c'est ton plus bel investissement. Là,
toi face à toi-même aussi. Exact. Là, dire la vérité, c'est quoi?
Le fait de savoir qu'aujourd'hui, je ne suis plus ma plus grande nuisance, mais je suis mon plus grand allié.
Ouais, c'est fou.
Je suis dans mon équipe. Hey, quelle différence ça fait dans chaque sphère de ma vie. C'est incroyable.
Puis c'est drôle, tu dis ça, j'ai jamais réalisé. Moi, je vais avoir 32 cette année. Puis ça fait 16 ans que je fais du développement personnel. J'ai même pas pensé que c'était la moitié de ma vie.
Incroyable.
C'est vrai que c'est puissant, pareil. Ouais. Mmh. Puis tu dirais-tu que t'as pas mal enlevé ou neutralisé tous tes défauts?
Question qui va peut-être trigger beaucoup des auditeurs qui vont faire « Oh, j'attends attentivement la réponse pour me faire une idée de qui tu es. » Au moment où on se parle, j'ai encore des caractéristiques que je trouve pas optimisées. Il y a encore des parties de moi que j'aime moins. Il y a encore des peurs que j'ai. Il y a encore des patterns. Il y a encore des réactions. Il y a encore des croyances. Il y a encore du travail à faire.
T'es encore un humain, toi.
Ouais, tout à fait. Puis vraiment même.
Ouais.
Ceci dit, je ne peux pas non plus... par envie de rendre les autres confortables, diminuer la quantité d'efforts et de temps que j'ai consacré à mon développement personnel parce que certaines personnes qui n'ont pas nécessairement fait la même quantité de temps et d'efforts dans cette voie-là vont se sentir confrontées par ça. Tu sais, si quelqu'un, par exemple, a l'impression que être susceptible, je suis de même, c'est tout. Puis que moi, je suis passé d'extrêmement susceptible à peu importe ce que tu me dis, ça me fait absolument rien, ben j'ai transcendé cet état-là. Donc, c'est confrontant pour quelqu'un d'autre qui a l'impression que c'est juste dans son kit de base.
Ouais.
Fait que c'est sûr qu'au moment où on se parle, ça fait 17 ans, tu sais, 16 ans que je travaille justement sur moi. Fait que oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses du Manu de d'autres époques antérieures que je suis fier de dire que je ne suis plus ce gars-là.
Mm-hmm.
Je ne pense plus de même, je n'agis plus de même, je ne parle plus de même. Mais il y a encore énormément de travail à faire, puis ça, c'est inévitable.
Mais c'est ça, tout ce que je pense, en tout cas, ce que tu veux dire, c'est que ça te nuit, tes défauts que t'avais ne te nuisent plus beaucoup dans ta vie. C'est sûr, ça va tout le temps rester qu'il y en a des défauts, des choses qu'on veut améliorer, mais c'est, t'es plus rendu à aller pousser tes forces au fond, puis tes choses améliorées, tu vas y travailler naturellement, comme tu dis un peu tantôt.
C'est ça. Parce que, tu sais, exemple, quelqu'un qui va me dire, ah, Manu, ça a pas de bon sens, voir que t'as fait ça, voir que t'as dit ça, ou je peux pas croire que t'as perçu la situation de telle manière. Tu sais, c'est je m'assure de communiquer sainement, je prends soin des gens, je respecte les gens, je suis super clair. Tu sais, je fais vraiment des efforts très très conscients pour prendre soin des gens dans mon environnement, que ce soit personnel ou professionnel. Fait que tu sais, c'est sûr que je n'ai plus dans ma vie en ce moment des commentaires du genre t'es jaloux ou voir que tu me parles de même, ouais, parce que le travail à ce niveau-là, il a été fait. Mais là, en ce moment, je peux te dire en toute humilité que je travaille sur être un meilleur leader pour mon équipe, je travaille pour être un meilleur patron, je travaille pour être meilleur, par exemple, pour m'enlever de la pression par rapport à certaines choses que je m'en mets encore beaucoup. Fait que ce sera jamais fini, ce travail-là.
Non, ça c'est sûr. Ouais. C'est ça la vie aussi.
Exactement.
Puis tu vois comment, tu sais, je sais que t'es pas médecin ou psychologue, mais l'anxiété, là, pour toi, c'est-tu quelque chose qui peut s'enlever ou tu restes tout le temps fondamentalement quelqu'un d'anxieux?
Ben, premièrement, tu l'as dit, je suis pas médecin, je suis pas psychologue. Fait que tout ce que je veux dire là, c'est que de l'opinion, je tiens à le préciser. Je pense que tout dans la vie, puis ça, c'est une des croyances que je suis le plus heureux d'avoir parce que ça m'a tellement bien servi, mais je pense que tout peut s'améliorer drastiquement. Des fois, certaines choses, ça se peut que ça prenne 10 ans, tellement de ressources et tellement d'efforts, mais partir dans son kit de base avec la croyance que rien de ce que je suis en ce moment n'a à être une destination finale, déjà, ça ouvre des portes intérieurement au fait que, OK, peut-être qu'un jour, je vais vivre dans une réalité dans laquelle ça ne m'affectera plus du tout. Puis quand tu regardes avant, j'étais extrêmement gêné, j'étais agoraphobe, j'avais peur d'aller dans des lieux publics, j'avais peur de m'exprimer. Mon plus grand complexe, c'était ma capacité de m'exprimer parce que je parlais très, très vite, je n'articulais pas du tout, je détestais ma voix. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai travaillées énormément. Puis aujourd'hui, tu m'entends parler ou tu entends parler l'homme que j'étais à 20 ans, puis c'est pas la même voix, c'est pas le même gars, c'est pas le même ton, c'est pas la même aisance. Donc, tout ce travail, j'en suis la preuve vivante. T'sais, même d'un point de vue génétique, t'sais, j'étais 6 pieds 1, 145 livres. Pour ceux qui se font une image en ce moment, 6 pieds 1, 145 livres, c'est pas très costaud.
C'est quand même pas gros.
Et là, ben, un an plus tard, deux ans plus tard, puis là, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je m'entraîne, tu sais. Fait que même des choses qu'au début, tu te dis non, ça, c'est pas moi ou ça, ce sera jamais moi, ben, c'est de switcher cette croyance-là envers le fait que si t'as l'impression que c'est zéro toi, là, ben, ça se peut juste que ça te prenne un peu plus de temps, mais accepte quand même que c'est possible.
Ouais, c'est ça, de juste penser ou faire confiance qu'en ce moment, on n'est pas comme ça, mais que ça peut arriver. Je pense que c'est une grosse force qu'on peut se donner à soi-même. T'sais.
Tout à fait. Ouais. C'est un beau cadeau à se faire.
Ben clairement. Puis là, tu reviens de voyage, mon cher.
Bien sûr.
En Thaïlande?
Yeah.
En Thaïlande. C'est quoi pour toi le plus gros... l'impact que tu as eu dans ce voyage-là? Tu as pris quoi, un mois?
Oui.
C'est quand même long, un mois, quand tu as une business, tu as plein d'affaires à gérer. Qu'est-ce qui a fait que tu as été capable de prendre un mois, puis qu'est-ce que ça t'a amené le plus comme individu de faire ça?
Qu'est-ce qui a fait que j'ai été capable? Structure, discipline. Je suis un gars extrêmement méthodique. Je place dans mon horaire les choses de manière très, très stratégique pour que ça me respecte au niveau de ce que je veux, de ce que je suis. Fait que pour réussir à partir un mois, quand tu as une entreprise, ben c'est ça, ça prend une team solide autour, ça prend énormément de critères. Mais tu sais, tout est une question de planification, là. Un peu comme n'importe quoi, que ce soit personnel aussi. Tu sais, quelqu'un qui veut une fin de semaine en Suisse, whatever, super réussi, ben tu gères tes choses d'avance, ton hébergement, tes activités. Fait que c'est un peu le même principe avec là-bas. Qu'est-ce que ça m'a apporté, ce voyage-là? C'est sûr que premièrement, c'était la première fois de ma vie que j'allais en Asie, donc dépaysement total, au niveau culturel, au niveau météo, tu sais, c'est... Puis pour moi, ça a été un voyage paradisiaque. Je peux le dire, là, c'est un des voyages qui m'a le plus changé, qui m'a le plus fait de bien aussi au cœur. J'ai senti que j'en avais besoin, juste ne serait-ce que pour l'adrénaline de vivre des nouvelles expériences, parce que, tu sais, justement, ici au Québec, tu sais, je l'ai ma vie, dont j'ai toujours voulu, tu sais. J'ai des bons amis, j'ai ma routine, j'ai mon gym, tout ça, tu sais, je suis très, très bien. Fait que le fait d'aller dans un contexte dans lequel tu te réveilles le matin, là, puis tu te dis, OK, what's up? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Cette espèce de liberté de penser et d'être, là, ça a été extraordinaire. Puis surtout, ça m'a montré que le monde est tellement grand, le monde est tellement vaste, il y a tellement de choses à vivre, de personnes à rencontrer, de cultures à découvrir, de plats à goûter. Ouais. Ça m'a vraiment redonné la piqûre, puis là, j'ai envie de faire tout le pays du monde. C'est, je veux repartir.
Puis, penses-tu que ce que tu as senti là, cette liberté-là, où juste être puis dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, penses-tu que c'est faisable de faire ça ici?
Je pense que c'est faisable de le faire ici. Par contre, ça peut être un danger parce que trop de ça, ça empêche l'appréciation aussi. Tu sais, si par exemple, tu me donnes $1 milliard d'un matin, j'ai plus jamais besoin de travailler une seconde de ma vie, puis là, exemple, les premiers mois, je profite bien de la liberté, tu sais, c'est le fun, puis tout ça, mais éventuellement, je vais vouloir m'accomplir professionnellement, Fait que, tu sais, je pense que c'est une des choses qui rend le voyage aussi beau, c'est le contraste, justement. Mm-hmm. Fait que de se dire, ah, j'ai tellement aimé la Thaïlande, je vais déménager en Thaïlande, ben...
tu l'aimeras plus autant.
Ben, c'est ça, exactement. Ça va devenir la bonne vieille Thaïlande au bout d'un certain temps. Puis, tu sais, puis là, je vais vouloir aller en Espagne. Puis là, ça, je vais avoir le même feeling. Puis...
Oh, ouais. Parce que en novembre dernier, c'était la première fois de ma vie, j'ai pris une semaine de vacances à rien faire. J'avais aucune activité, aucun voyage. J'étais avec ma famille, là, à la maison. Puis c'était un peu ça que j'ai trouvé que ça faisait. On se levait, on fait quoi? Ouais, on va aller au parc. Ouais. Ou, tu sais, je sais pas, on va aller dehors. Je trouve ça fantastique. Qu'est-ce que ça peut faire d'avoir rien de cédulé?
C'est très libérateur.
Puis, j'étais un gars qui adore faire des affaires, tu sais, des expériences. Je fais de la rando, je m'en vais en voyage, je loue un chalet. Je fais plein d'affaires, mais on dirait que de temps en temps, là, juste zoom, il y a rien. Ouais. C'est capoté, qu'est-ce que ça
vraiment
fait? Puis, y a-tu, juste pour finir avec ton voyage, là, y a-tu, la portion que t'avais des réseaux, parce que je te suivais pareil dans ton voyage, c'est très comique, tu sais, tout ce que tu mettais, c'était super drôle, c'était super inspirant, c'était le fun de voir en même temps un peu la Thaïlande à travers toi. Mais comment tu te sentais, est-ce que c'est une obligation de dire je dois faire des pauses pour faire voir, tu sais, un peu que tu sois encore là, actif, puis tout ça, ou c'était vraiment un plaisir de faire ça?
Ben, premièrement, j'ai vraiment moins publié que quand je suis au Québec. Fait que j'ai vraiment profité de mon voyage, j'ai décroché, puis je me suis pas mis outre mesure de pression par rapport à mon contenu. Okay. Ceci dit, il y a quand même des moments où est-ce que j'ai eu l'impression que « Ah, ça fait tant de temps que je donne aucune nouvelle. Il me semble que je pourrais leur donner un petit quelque chose. Tu sais, je pourrais leur donner un aperçu de où est-ce que je suis ou ce que j'ai vécu ou quelque chose comme ça. » Mais en même temps, c'était... Tu sais, je voulais le vivre, là. Je voulais pas... tu sais, comme des fois, on prend des photos ou des vidéos de quelque chose ou d'un feu d'artifice, puis après ça, on est comme « Hey, je m'en rappelle-tu ou je... Va falloir que je regarde ma propre vidéo, là. » Donc, j'ai vraiment moins publié, puis ça m'a fait du bien justement de décrocher complètement. Il y a certains rendez-vous que j'avais, des rencontres, des choses comme ça, que j'ai tout simplement annulé parce que j'avais ce besoin-là de décrocher. Puis je me suis autorisé à le ressentir. Tu sais, j'ai pas combattu ce feeling-là, puis je me suis pas dit « Ah non, tu sais, voilà. » Je me suis vraiment permis de le vivre, puis sincèrement, c'est un autre niveau de liberté aussi, tu sais, de se dire « Je peux me permettre que même le peu que je m'étais mis à l'horaire là-bas, parce que je voulais en profiter, si je le file pas, je l'annule. Ouais. Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais.
Puis c'est ça, parce que c'était, j'imagine, si tu l'as gardé, c'était quelque chose d'important quand même.
Quand même.
Puis t'as décidé d'annuler pour profiter, c'est quand même.
Ouais.
C'est une grosse décision, entre guillemets, tu sais, à faire de temps en temps. Mais je serais curieux, qu'est-ce que. Si tu l'avais fait, t'aurais-tu regretté ou si tu l'avais fait, c'est parce que t'aurais senti que tu devais le faire?
T'sais? Comme tu dis, c'est une question de feeling. Des fois, il y a certaines choses. Il y a un de mes mentors, Sylvain Boudreau et ami, qui dit le principe de en scène, hors scène. Mm. Peu importe à quel point, mettons, ça va mal, t'as des défis, puis tout, rentre en scène, boum. Mm-hmm. Le public est là pour une raison, tu leur donnes exactement ce pourquoi ils ont payé. Fait que oui, des fois, d'avoir cette attitude-là en scène, hors scène, puis de juste step up parce que la situation le nécessite. Mais aussi, il faut se rappeler que on a juste une vie à vivre, puis c'est personne d'autre qui va avoir des regrets à notre place. Donc, c'est vraiment de s'assurer d'être aligné avec ce qui est important pour nous. Puis pendant ce voyage-là, j'ai ressenti que ce qui était fondamentalement important pour moi, c'était juste d'être dans le moment présent et de le vivre de la manière que j'avais envie de le vivre.
Wow! T'es sage. Puis, c'est quoi ta plus grande prise de conscience que t'as eue dans ta vie?
Par rapport... En général?
En général, ouais. Grosse question, là, mais...
Ta vie, c'est tes choix.
Ta vie, c'est des choix.
C'est tes choix. Tu t'aimes pas ce que t'es en train de créer, fais d'autres choix. Ah, mm-hmm. j'ai pas le contrôle, c'est pas de ma faute, c'est mon boss, c'est lui, c'est le changement de saison, c'est l'économie, c'est l'inflation, c'est... OK, qui tu peux être pendant ce temps-là? OK, fine, t'as pas décidé de faire cet accident de char-là, mais t'es qui pendant ce temps-là? T'es qui pendant ta rehab? T'es qui pendant que tu gères ça avec tes assurances? T'es qui pendant que t'es en train de remplir le constat avec l'autre personne? Puis c'est la chose la plus importante que j'ai réalisée, c'est que c'est toujours about who you are, la personne que tu deviens et l'impact que cette personne-là peut avoir de par qui elle est.
Ouais. C'est bien dit. Des fois, je dis, t'es 100% responsable de tout là, dans ta vie, de ce qui t'arrive, de ce que t'es, mais c'est bien dit de cette façon-là. C'est juste une question de perception aussi de la situation. Les deux personnes réagissent pas de la même façon.
Puis je trouve que ça apporte une nuance intéressante à la responsabilisation parce que, par exemple, quelqu'un qui vient juste de se faire laisser, voire tromper, puis tu lui dis t'es 100% responsable, cette personne-là aura pas de réceptivité par rapport à ce que tu lui diras. Et même si ton but, c'est de l'aider, tu viens pas de l'aider en lui disant ça.
Ouais.
Fait que d'y poser la question, je comprends. Puis je sais à quel point c'est difficile, mais qui t'a envie d'être en ce moment? Tu ramènes la responsabilité entre les mains de la personne sans invalider l'émotion qu'elle sent par rapport à la situation.
Ouais, parce que c'est ça que je sens aussi des fois dans le t'es responsable, c'est de l'invalidation un peu à l'autre personne. Fait que c'est pour ça que j'aime ça comment tu l'amènes.
Nuance très importante.
Ouais, merci Manu.
Ça fait plaisir.
Arrêter de faire chier tout le monde. super. Côté équilibre, parce que c'est quand même un podcast que je parle d'équilibre de vie, évidemment, fait que de toutes les sphères. C'est quoi pour toi l'équilibre?
L'équilibre, c'est une question de cohérence. Si tu sens que tu fais ce qu'il faut pour atteindre ce que tu veux dans tes piliers existentiels, corps, carrière, conscience, connexion, ben c'est ça l'équilibre. Tu sais, si quelqu'un, pour lui, l'équilibre, c'est à travers 3 gyms par semaine, 1 hiking puis 2 marches avec son chien, fine. C'est très personnel l'équilibre en fait. Puis jamais je vais dire à quelqu'un que parce que je fais quelque chose, il devrait faire quelque chose. T'sais, ça, c'est très, très, très individuel l'équilibre. Puis surtout, tu sais, quelqu'un, par exemple, pourrait se sentir complètement déséquilibré avec 5 gyms par semaine, puis l'autre personne se sent très équilibré à 2 gyms par semaine parce que c'est ses choix selon ses objectifs, ce qu'elle veut être, faire, avoir comme vie. Fait que. Mais l'équilibre, c'est de se connaître d'abord parce que tu peux pas être équilibré si tu sais pas exactement c'est où ton point de référence, tu sais. Genre, faut que tu te connaisses pour savoir si t'es hors champ par rapport à qui tu es.
Ouais, c'est bon ça. Parce que j'ai senti aussi, moi, un peu ce déséquilibre-là parce que j'ai travaillé beaucoup. J'essaie de ralentir depuis 2 ans, travailler moins mais plus performant, des choses que tu fais, l'optimisation. Puis j'ai senti ça des fois que justement, je me connais, mais tu sais, on est quand même une entreprise familiale. Fait que j'étais avec mon père, mes 2 frères qui gèrent un autre business, mais quand même, on travaille tout le temps en collaboration ensemble. Puis moi, ma vision, justement, c'est pas de faire 10-12 heures par jour. Puis des fois, je me sens comme si faut choix dans la famille, tu sais. Puis moi aussi, je suis de même. À un moment donné, quand tu te connais, justement, tu prends les choix de dire, ben moi, je suis de même. Puis mettons que vous autres, vous aimez pas ça, mais c'est correct aussi. Puis on va juste faire autre chose. Tu sais, c'est pas ça qui arrive. On s'entend super bien, mais quand tu te connais, t'es capable de prendre des décisions comme ça puis dire, ce sera comme ça.
Mais c'est aussi de vérifier par rapport à la charge de responsabilité puis c'est quoi vraiment les rôles de chacun dans le sens où, tu sais, exemple, là, que pour fournir le rendement que tu fournis en ce moment, tu travailles 12 heures pour l'offrir puis tu décides du jour au lendemain que tu travailles juste 8 ou 6 heures. Ben là, si tu mets tout le monde dans le trouble à cause de toi, puis là, eux, ils en ont plus ou quelque chose, c'est une chose. Mais si tu arrives à montrer que tu as mis en place un système, une solution, ou que tu as engagé quelqu'un qui fait en sorte que tu te libères ton temps, mais personne n'est affecté négativement par ça, c'est vraiment différent. Tu sais, puis des fois, c'est le concept associé à la valeur, soit du temps ou de l'argent, que les gens ont du mal à comprendre. Puis des fois, ils sentent que je peux pas déléguer ou je suis indispensable ou ça, c'est absolument moi qu'il faut qu'ils le fassent. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est qu'à un moment donné, j'étais dans mon groupe de coaching avec mes clients, puis je leur pose la question, est-ce que vous seriez déçu si les mercredis, c'était plus moi qui vous coachais, mais c'était quelqu'un d'autre à ma place? Puis la réaction normale des gens, c'est ben oui, tu sais, parce que nous autres, on paye pour être avec toi, puis genre, si c'est plus toi, ben comme, ça change la... Fait qu'ils ont toutes sortes de raisons qui sont légitimes. Puis là, je leur dis, ah, c'est dommage parce que ça aurait été Elon Musk, votre coach d'affaires. Et là, c'est soudainement, bon. Tu vois la face qui... Ah ben oui, tu peux t'en aller, Manu, tu sais, finalement, c'est comme on va
prendre... On t'aime bien, là,
c'est
ça, mais...
On va prendre ses conseils business. Fait que là, je suis comme, OK, mais on pensait que c'était genre, c'est moi, faut que ce soit moi, mais si quelqu'un d'autre est capable de prendre ta place puis de fournir un rendement égal ou supérieur, ou ne serait-ce que, même si c'est 80% de ton rendement, mais que ça te permet de te libérer du temps puis des ressources qui te permettent de créer autre chose qui est miraculeux à côté, tout le monde gagne.
Mm-hmm.
C'est ça qu'il faut pas oublier.
Ouais. Puis comment tu vois ça quand t'engages quelqu'un, là? Veux pas, c'est un coût de plus. Est-ce que tu fais des ventes avant ou t'engages quelqu'un et tu fais des ventes après?
Ben en fait, techniquement, c'est qu'en tant que CEO dans une business, t'es censé être la personne qui apporte le plus de cash dans le business quand t'es dans ta zone d'excellence puis de génie. Puis que ce soit le développement des affaires, que ce soit de trouver de la prospection, de la vente, peu importe, mais tu sais, c'est sûr que t'as des zones dans lesquelles t'es payant pour la business. Puis techniquement, un employé, c'est jamais censé être une dépense.
Ben non.
Parce que c'est censé... Tu sais, il y a un de mes mentors, Dan Martel, qui dit « Tu n'engages pas pour grow ta business, tu engages pour récupérer ton temps. » Fait que si tu te dis « Je vais engager quelqu'un au marketing », puis là, cette personne-là, elle arrive, elle a ses tâches, ses responsabilités puis ses objectifs de rapporter tant d'eau au moulin, mais que toi, là, ça te rajoute une personne à gérer. Ça te rajoute une personne avec qui faire du back and forth, des meetings, ci puis ça. Fait que finalement, la personne, elle te coûte de l'argent, c'est pas encore sûr qu'elle va être payante. Toi, t'es pas libéré de ton horaire du tout, mais en plus, on te rajoute une personne à gérer. Bonne chance. Puis là, on te rajoute là-dedans quelqu'un en pub, puis on te rajoute là-dedans quelqu'un au développement, puis on te rajoute... Puis là, éventuellement, tu te ramasses, t'es même plus dans ta zone de génie, tu deviens un manager. Puis c'est là qu'on commence à capoter, puis on se dit « Ah, faut que je réduise tout ça », puis on commence à un peu saboter notre business, la shrinker, puis la ramener à un niveau plus petit où est-ce que là, on se ressent en contrôle.
Mm-hmm.
Alors que techniquement, si tu regardes ta liste de tâches, puis c'est ça, puis t'engages quelqu'un qui va te prendre ça pour que tu puisses te concentrer sur ça qui est payant, dès que la personne apprend ton temps, t'es plus libre, puis tu fais plus d'argent.
Ouais, c'est bien. C'est...
Exemple tellement, puis je vais donner un exemple super concret pour pas que ce soit théorique pour personne. Si dans ma journée, on va dire aujourd'hui, OK, je suis là avec toi, puis je fais le podcast. Je le fais parce que j'ai pas à aller dans Canva créer le visuel pour telle chose. J'ai pas à créer le montage vidéo de telle affaire. J'ai pas à faire le service à clientèle puis répondre à Joanne qui a oublié son mot de passe pour le portail web client. J'ai pas à écrire le texte de la publicité qui roule en ce moment sur Instagram. Fait que vu que j'ai pas à tout faire ça, je peux être ici. Si je suis ici, je parle avec toi, j'ai du fun, c'est léger. Je donne la valeur à des gens. Il y a des gens qui me découvrent grâce à ton podcast. Il y a des gens là-dedans qui vont devenir des clients. Puis si éventuellement j'ai 10 clients qui reviennent à un podcast, peut-être que ça représente des dizaines de milliers de dollars au bout du compte. Ouais. Fait que littéralement, là, être aujourd'hui sur Canva, dans Google Drive, en train de faire tout ça, ça me coûterait des dizaines de milliers de dollars d'un point de vue réel. Mais quand on réussit à avoir ce thinking-là sur le ratio genre temps, argent, effort, c'est vraiment un game changer, là.
Mm-hmm. Ouais, puis c'est intéressant de la façon que tu l'amènes, j'aime bien ça. Parce que tu l'as dit, là, souvent on sent que c'est une dépense en soi parce que ça coûte de l'argent, mais c'est pas nécessairement une dépense parce que ça coûte de l'argent.
C'est toujours censé être un investissement. Puis la première embauche qu'on devrait faire vraiment, c'est pour nous libérer du temps. Fait que c'est un ou une adjointe qui nous permet vraiment de réussir à regarder ton horaire, là, évalue tes deux dernières semaines, puis marque aux 15 minutes tout ce que tu as fait. Puis après ça, évalue. C'est quoi qui était une zone de très payant, payant, peu payant ou zéro payant? Puis évalue, ça t'a-tu énergisé ou ça t'a drainé?
Mm-hmm.
Fait que quand tu fais ton code comme ça, tu te rends compte qu'il y a plusieurs cases dans lesquelles c'était vraiment payant puis t'as adoré. Par exemple, ce que je fais en ce moment, c'est payant long terme, moyen terme, puis j'adore ça. Puis il y a d'autres zones où est-ce que répondre à un client, clique ici pour ton mot de passe, puis nanana, je suis pas payant puis j'aime pas ça. Fait que dès que quelqu'un rentre dans le business, sa job principale, ça devrait être de te libérer de toutes les choses pas payantes puis que t'aimes pas. Comme ça, tu te concentres sur justement les affaires que t'aimes plus, les affaires qui font plus d'argent dans le business en même temps. Puis c'est pas long que tu réussis à le rentabiliser.
Puis ce qui est fou, c'est que toi, ce que t'aimes pas, il y a quelqu'un qui aime ça.
Ouais, ça, c'est parce que des fois, on se sent mal en disant, oh, mon Dieu, je peux pas y donner ça. Puis là, tu réalises que il est heureux ou est heureuse de faire ça. T'es comme, ah ouais, t'es
tant
sûr.
OK. Tant mieux d'abord.
Enjoy.
Puis justement, parce que là, on parle d'employé, c'est un petit lien avec ça. Quand il y a des, comment je dirais ça, des gens un peu plus négatifs, mettons, dans la vie, tu sais, qui voient un peu plus de problèmes, plus que de solutions, des choses comme ça, personnellement, ça vient me chercher un plus que autre chose. Y a-tu une façon quand que... Parce que, tu sais, je sais que la négativité ou la positivité, tu sais, faut pas juste soit positif dans la vie parce que juste positif, c'est pas vrai. Là. Selon moi, il y a des malheurs, des choses qui vont moins bien, puis oui, il faut que tu sois en mode solution. Mais comment tu dirais que je vais prendre mon exemple, là, comment je pourrais réagir ou changer une façon de voir quelqu'un qui est négatif?
Pourquoi t'aurais à le changer? Dans le sens où, tu sais...
Moi, changer moi.
Non, je sais, mais ouais. Comme quand je te dirais ça, exemple, en ce moment, dans mon environnement, les amis que j'ai, c'est des gens qui prennent soin de leur santé, c'est des gens qui ont des belles familles, c'est des gens qui réussissent très bien financièrement, puis ça m'inspire d'être ami avec eux. Fait que j'ai pas besoin de changer ma vision de quoi que ce soit parce que c'est juste le fun d'être en leur présence puis inspirant. Fait que si t'as des gens autour de toi qui correspondent pas à tes standards ou à tes valeurs ou à ce que tu veux... t'es pas obligé nécessairement de les avoir autour de toi. Puis si tu me dis, ouais, mais c'est un employé ou nanana, c'est des procédures, une business. Fait que voici nos valeurs d'entreprise, voici nos standards, voici la manière de fonctionner, voici la manière de gérer un conflit, voici la manière de gérer un problème, voici les étapes à suivre s'il y a des défis, voici les étapes à suivre pour exprimer quelque chose qui fait pas ton affaire. Puis tu mets des paramètres là-dedans, puis si quelqu'un est pas capable de respecter les paramètres de ta business, il n'y a pas rapport dans ta business. Ouais. C'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est pas que t'es une meilleure personne, c'est juste pas un bon match. Et c'est correct, tu sais.
Ouais.
Fait que si t'as quelqu'un autour de toi qui constamment, après que t'as eu une discussion avec, il y a rien qui change, la personne est négative, la personne te draine, c'est peut-être une personne que t'as pas nécessairement gardée dans ton environnement.
Mm-hmm. Parce que, ouais, je comprends ce que tu veux dire, parce que des fois, j'ai l'impression... que moi, c'est plus ma perception de la négativité que je dois changer ou améliorer plus que un individu, mais...
Il y a toujours un travail de part et d'autre, tu sais, mais il y a des limites à chaque chose, comme peu importe la qualité de ma façon de voir la vie ou de mon mindset, si jamais tu m'enfermes dans une pièce avec que des personnes qui vont chialer sur absolument tout, ont l'impression que la vie, c'est de la marbre, puis c'est pas de leur faute, puis tu sais, après deux jours, je vais virer fou, là.
C'est
sûr. Tu sais, si l'environnement, je veux dire, oui, le mindset a ses limites. L'environnement joue pour beaucoup.
Ouais. Parce que je le vois pareil souvent avec des employés, naturellement, ils vont s'en aller ou on va congédier un ou l'autre. Ben justement, des valeurs, on a quand même un plus ou moins qu'on évalue dans nos 5 valeurs. Puis tu vois, quand une personne a 2 moins... Et clairement, c'est nous ou lui qui va se tanner rapidement.
Ouais.
Fait que c'est sûr que ça fait ce ménage naturel-là, mais je comprends qu'il y a, il y a une limite à dire « je m'améliore dans cet aspect-là de ma vie aussi ».
Puis souvent, c'est de poser une question à la personne. T'sais, si quelqu'un est super négatif, tu peux lui demander tout simplement « pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi ?» Ou pourquoi est-ce que tu sens que... Tu sais, de poser les bonnes questions, ça permet aux gens de révéler dans le fond c'est quoi la nature derrière ce qu'ils disent qui va pas. T'sais, si quelqu'un dit, hey, voyons donc, c'est de la merde, tel client, nanana, tu sais, ok, mais pourquoi ça te trigger à ce point-là? Pourquoi ça te fait de quoi à ce point-là? Ben là, parce que ça se fait pas, nanana. Puis là, tu vas plus loin, puis tu creuses, puis tu réalises que la personne, ça n'a pas rapport avec la situation, ça a rapport avec son système de valeurs, son système de croyances, en lien avec son enfance, en lien avec ses amis, en lien avec son couple, ou tu sais, mais il y a toujours quelque chose derrière qui explique ça. Fait que des fois, juste de comprendre la personne, ça fait sentir qu'on care assez, puis elle a envie de changer d'énergie des fois à cause du lien de confiance puis de vulnérabilité qui peut s'installer.
Ouais, parce que ça aussi, j'aimerais ça t'entendre là-dessus sur, je vais stéréotyper, là, mais souvent on dit que la femme a besoin d'être écoutée, puis le féminin puis le masculin, lui, a plus besoin de trouver la solution. Comment tu vois ça, toi, quand t'es en relation, de écouter ou donner une solution à quelqu'un?
Premièrement, je rentre pas là-dedans.
C'est dangereux.
Deuxièmement, allons-y. C'est du cas par cas. Quand on parle de polarité, on parle de féminin, de masculin. T'sais, moi, je suis un gars très, très en mode, je suis pas stressé et pas stressant. Là. Fait que tu sais, ta question, j'ai envie de te poser une question en retour qui est pourquoi on voudrait la réponse? Tu comprends ce que je veux dire?
Non.
Tu sais, quand tu y penses, là. Comme, mettons, là, ta question, c'est... OK? Redis-moi, là, mettons, en une phrase.
En une phrase, c'est comment naviguer entre l'écoute ou le mode solution par rapport à un individu.
Puis, c'est une vraie question dans le sens où est-ce que vraiment la réponse est nécessaire? Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire?
Oh, ouais.
Tu sais, c'est...
Mettons, c'est quoi que là, ça va changer de trouver la réponse?
C'est ça. Mettons, je te donne une réponse A ou une réponse B. Est-ce que concrètement, toi puis moi, on repart d'ici ou eux qui nous écoutent en ce moment avec quelque chose de... Tu sais, souvent dans la vie, je le dis, il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste une question de communication puis de compréhension. Fait que, tu sais, la bonne affaire, la bonne réponse, tu sais, c'est juste, c'est une réponse, c'est une affaire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise.
Ouais.
Fait que, tu sais, est-ce que, mettons, que ce soit dans un couple, dans une relation avec un employé ou quoi que ce soit, tu sais, c'est quoi la... C'est tellement relatif, c'est tellement variable, puis c'est juste de bien communiquer, de poser les bonnes questions puis de vérifier est-ce qu'on est à la même place, finalement.
Hein. Ouais. Puis c'est pas... Non, je comprends, c'est pas nécessairement de dire là, je dois écouter ou là, je dois donner une solution.
Mais non, pis surtout pas d'avance. Tu sais, si, exemple, j'étais avec quelqu'un puis je me rends compte que cette personne-là, elle m'écoute pas, est toujours en mode solution. Je vais dire, hey, c'est-tu quoi? Des fois, j'ai juste besoin de parler puis de sentir que tu me comprends. Ouais. J'ai pas besoin que tu trouves une solution. Je vais dire. Puis des fois, je vais être avec une autre personne puis elle va juste m'écouter puis je vais dire, mais toi, qu'est-ce que tu feras à ma place? Fait que tu comprends, il n'y a pas de... non, genre...
je comprends, parce que souvent, on entend quelque chose par rapport à ça, fait que je trouve ça le fun que tu l'amènes différemment de ce qu'on entend normalement.
Ça fait plaisir.
Puis je veux aller un peu dans, tu sais, dans notre projet Espace Tonique. On est beaucoup dans vivre le moment présent, de justement ralentir, de prendre le temps. Tu sais, il n'y a pas des centaines de kilomètres de sentier. On a 4 kilomètres de sentier, puis le monde marche tranquillement, puis on regarde les oiseaux, puis tout ça. Pour toi, c'est quoi vivre au présent? Vivre le présent? Ou...
Tu viens de le décrire. Marche, regarde les oiseaux.
That's it.
C'est si tu regardes un arbre, regarde un arbre. Si tu entends de la musique, entends de la musique, tu sais, mais regarde pas l'arbre, puis oublie la musique, puis tu comprends? C'est d'être vraiment là. Puis mon Dieu, que ça peut vouloir tout dire et rien dire ce que je dis en ce moment.
Ouais,
mais je sais qu'on se comprend.
Puis tu sens-tu que t'es capable de faire ça?
Ah ouais.
Ouais.
Des fois, là, je suis très connecté avec mon monde intérieur, mes émotions. J'ai aucune difficulté à dire qu'on peut être un homme, un vrai, et avoir une belle sensibilité
ben
en
oui,
même temps.
Clairement.
Juste regarder un coucher de soleil, puis être pleinement dans le moment, le voir diminuer progressivement dans le ciel, puis être 100% là. Pas en train de gérer les problèmes qu'on n'a pas gérés aujourd'hui à job, pas en train de penser à ceux qu'on va régler le lendemain, pas être en train de se demander qu'est-ce que la personne à côté de nous pense de ce coucher de soleil-là, juste être là. Ouais, je peux le faire, ouais, ça me fait du bien de le faire.
Puis, y a-tu des moments, ben c'est sûr en fait que t'es pas là-dedans, comment tu fais pour revenir là?
Ben, il y a des moments pour chaque chose, comme tu as dit, fait que tu sais, des fois, j'essaie même pas de...
Ouais.
Revenir dans le présent, si on peut dire. Des fois, je suis en planification stratégique. Des fois, je suis en train d'analyser justement, OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné ou non cette semaine. Mais je suis un gars quand même assez groundé. Fait que même quand je suis plus dans le passé ou dans le futur, je suis là pendant que je le fais.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, comment je réussis ça? Ben, je te dirais, c'est la résultante de d'années d'expérience, de lecture. J'ai fait Vipassana en 2018, retraite de méditation, 10 jours. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est 10 jours en silence total. T'as pas le droit de lire, de parler, d'écrire, de t'entraîner. T'as même pas le droit d'avoir de contact visuel avec les autres, les regarder dans les yeux. Fait que c'est sûr que vivre des expériences comme ça au fil des années, ça t'aide pas mal à te grounder, là.
Puis, y a-tu des moments, justement, que tu sens, parce que je trouve ça très intéressant, ce que tu as dit, tu te laisses l'espace de dire, je suis pas là-dedans en ce moment, tu sais. Fait que, justement, y a-tu des moments, des fois, que tu sens que tu aurais besoin plus de ça, puis tu le prends pas, ou?
Je les prends, dans le sens
prends,
où,
ouais.
Des fois, on pense que c'est très compliqué, là, tu sais, qu'il faut partir en retraite d'un week-end ou que... La prochaine respiration, tu la prends consciemment, tu l'inspires, là, mais tu la laisses être une espèce de remède, tu la laisses être une espèce de ménage intérieur, puis un nouveau départ, puis juste ça. Mm-hmm. Tu sais, je t'ai vu la prendre, cette respiration-là, puis elle fait du bien. Là,
ben oui, elle fait du bien.
Fait que des fois, c'est aussi simple que ça. Des fois, c'est de mettre sur ta playlist la bonne chanson qui va créer le bon effet chez toi, puis de faire ça consciemment. Des fois, c'est pendant que tu cours dans ta cuisine, tu t'arrêtes une seconde, tu déposes tes mains sur le comptoir, t'apprends cette respiration-là, tu te le permets, tu sais.
Puis souvent, ce que je trouve intéressant, c'est de le faire dans des habitudes. Fait que, mettons, quand tu te laves les mains, c'est de quoi, tu sais, de l'eau chaude ou de l'eau froide. Tu peux juste faire « wow », tu sais, sur mes mains, cette eau-là, ouais. C'est fou, ça arrive de où? Il y a tous les tuyaux, il y a un système énorme pour te donner de l'eau à volonté.
Ouais, être fasciné, mon expression préférée, je pense, c'est spécial, la vie. Parce que je suis toujours émerveillé, tu sais, de voir à quel point, oh mon Dieu, tu sais, hey, les feuilles changent de couleur, les oiseaux sont de telle manière, le vent, le tu sais, c'est fou tout ça, là.
Ouais.
De prendre le temps de l'apprécier.
Ouais, c'est très important, je crois. Dans ta vie, là, parce que tu parles souvent de éliminer des fois plus que ajouter des choses. Ça serait quoi, tu dis, la chose que tu as éliminée qui t'a fait le plus de bien ou le plus gros impact que tu as eu?
Ben, ça commence par le travail personnel au niveau des caractéristiques internes. Fait que, tu sais, certaines des choses qui me nuisaient énormément, par exemple, la susceptibilité d'avoir de la difficulté. Tu sais, les gens autour de moi, quand j'étais plus fin d'adolescence, 20 ans, 21, tu sais, il fallait mettre des gants blancs beaucoup avec moi parce que je prenais tout mal, ou j'étais sa défensive, ou tu sais, j'étais comme, pourquoi tu dis ça? Pour, tu sais, j'étais très dans le jugement. Fait que c'est sûr que tout ce travail-là, cette élimination-là, m'a donné après ça des plus belles relations, m'a fait sentir mieux par rapport à moi-même, plus en paix aussi avec ma vie. Fait que ça, c'est plus au niveau interne, mais au niveau des habitudes, ben, tu sais, c'est sûr que d'arrêter la consommation excessive d'alcool, d'arrêter, je veux dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu un impact, puis je pense pas que dans la vie, il y a une chose qu'on peut ajouter qui change tout, une chose qu'on peut enlever qui change tout, mais c'est vraiment l'accumulation de tout ça. Puis surtout,
plein de petites choses, hein.
Puis de le faire perdurer dans le temps.
Mm-hmm.
L'accumulation des journées. Tu sais, win your day, win your life. Là.
Ouais. Puis c'est serait quoi la constance, la discipline pour garder une habitude?
Ça peut être une question de discipline, mais ça peut être une question d'environnement. Puis c'est souvent des choses que j'essaie de faire réaliser à mes clients par rapport au fait que, tu sais, mes clients se transforment puis ils se transforment de manière dramatique. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi drastique? Pourquoi c'est aussi grand comme transformation? C'est parce que tous les paramètres sont en place. Ouais. Si je te dis, à partir de maintenant, tu vas devoir faire telle affaire, bonne chance, dans 3 mois, on se reparle, voir si tu as réussi, c'est une chose. Si je te dis, à partir de maintenant, tu manges dans ce restaurant-là, et il n'y a aucune option qui n'est pas bonne pour la santé, tu vas manger santé. C'est inévitable parce que j'ai placé le bon environnement. Fine. Après ça, je place les bonnes personnes autour de toi. Tu vas être influencé constamment par ces gens-là. Je place les bonnes lectures autour de toi. Tu vas être influencé par ça aussi. Ensuite de ça, je t'aide à structurer ton horaire autour de ça. Ensuite de ça, on va rajouter des outils. On va rajouter de l'automatisation. Fait que c'est vraiment l'ensemble de motivation qui est fournie par le groupe, par ton coach ou par différentes ressources qu'on fournit. C'est l'environnement qui change complètement. Puis c'est les outils qu'on donne. J'appelle ça des leviers de pouvoir. C'est des choses que tu mets en place dans ta vie. Puis t'as juste à donner une petite poussée initiale, puis ça va donner un retour sur investissement hallucinant. Mais ça, ces outils-là, encore hier, j'avais une discussion avec quelqu'un dans mes messages privés, puis le gars, il me disait, hey, je connais pas telle application. Puis je dis, ben, félicitations, ta vie vient de changer. C'est un outil qui fait toute la différence comme ça, mais tant que tu le sais pas, tu le sais pas, là.
C'était quoi? T'as un secret?
À suivre. Écrivez-moi en privé, je vais vous le dire.
Ah, oh, yes. Parfait.
Fin stratège, je collecte des leads.
Ben oui, c'est bon ça. Ouais. C'est important.
C'est l'habitude.
C'est ça, t'es fort. Penses-tu que n'importe qui peut être heureux dans la vie?
Ben oui.
Tout le monde.
La preuve, je suis n'importe qui puis je suis heureux.
C'est vrai. Puis t'as quand même un parcours
quand même.
Difficile.
Quand même.
Jeune.
Très
puis t'es heureux aujourd'hui. Ouais, ça c'est impressionnant.
Je pars de très, 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 très loin pour ceux qui connaissent un peu plus mon histoire. Là.
Fait que tu penses que n'importe qui est capable d'être heureux. N'importe où dans le monde.
Définitivement.
Ouais. Je pense que c'est... le but de la vie aussi, d'être bien. C'est ça le but de la vie?
Who knows? J'ai le but de la vie pour moi. C'est quoi le but de la vie pour toi? Ouais. C'est quoi le but de la vie pour Élodie?
On ne sait pas.
Who knows?
Manu, je veux te remettre ça avant la fin du podcast. Je t'avais déjà parlé de ça, mes lettres bienveillantes.
Oui.
Ben là, ils sont sortis, nos belles lettres. Fait que je voulais t'en distribuer. C'est un peu de distribuer la bienveillance partout dans le monde.
J'adore
ça. Fait que j'en mets à des épiceries, j'en mets au Rona, j'en mets à des parcs, n'importe où.
Incroyable.
En dedans, c'est une lettre qui te dit qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu.
Ah, c'est fou.
Puis que c'est un cadeau, puis le présent, mais c'est aussi un cadeau. Fait que de prendre le moment, ce deux minutes-là que la personne t'a offert ça, mais de dire juste merci à la vie, merci à n'importe qui. Puis souvent, j'ajoute une pensée. Fait que tu as déjà 6 pensées qui viennent avec le package deal. Tu mets ça dans ton enveloppe, tu distribues ça. Moi, j'écris souvent, mettons, un documentaire que j'ai trouvé cool, une personne inspirante ou une citation, n'importe quoi de plus à la main que l'autre personne, une synchronicité X qui va arriver.
Tout le temps.
C'est ça. Fait que je crois à ça. Fait que je voulais t'offrir ça,
merci,
mon cher.
Merci, j'apprécie. Je vais passer au suivant, certainement.
Yes. Puis, Manu, où c'est qu'on peut te rejoindre, mon cher?
Tu peux me rejoindre au 819.
555.
Instagram, principalement, je dirais que c'est le... J'ai une page Facebook aussi. Évidemment, tu sais, YouTube, TikTok, mais vraiment le meilleur moyen d'entrer en communication avec moi ou d'avoir vraiment le behind the scenes, c'est à travers Instagram, les stories, les messages, ouais, tout ça. Fait que tous ceux qui ont eu de la valeur aujourd'hui, ce que je leur propose, dans le fond, c'est toujours la même chose à la fin de tous les podcasts. J'ai monté au fil des années un espèce de package, si je peux dire, qui inclut certains des exercices les plus puissants que j'ai en coaching, certaines ressources, certaines applications, des outils. Bref, je rajoute toujours de la valeur là-dedans au fil des mois, au fil des années. Puis j'ai décidé, au lieu de le vendre, de l'offrir 100% gratuitement. Fait que ça, c'est vraiment mon cadeau que j'offre à toutes les personnes qui m'ont fait le cadeau de leur attention et de leur temps. Mais en retour, tout ce qu'ils ont à faire, c'est m'écrire sur Instagram pour me dire « Manu, je t'ai écouté à tel podcast, j'aimerais recevoir le cadeau. » Ça me fait plaisir, je leur envoie ça.
Wow, merci. Pour t'écrire sur Instagram?
Tout à fait. Man Lemire sur Instagram.
Man Lemire, the master. Yeah. Puis avant qu'on finisse, t'aurais-tu un petit conseil, un dernier truc, n'importe quoi que tu veux partager à tout le monde qui écoute?
Be yourself.
Be yourself.
Mais pas genre comme on entend dans un film pour ado puis qu'on a 14 ans puis c'est genre à la 28e minute de genre you just gotta be yourself, yeah, man. Avec be yourself, avec un niveau de profondeur, un niveau d'authenticité, un niveau de confiance, juste autorisez-vous à être exactement qui vous êtes en ce moment et à accepter le fait que c'est parfait en ce moment.
Mm-hmm.
Souvent, on espère tellement qu'on devenir cette personne-là, devenir cette version, cette fameuse meilleure version de nous-mêmes.
Ouais.
Et on a l'impression qu'on est en retard, on a l'impression qu'on devrait pas ci, qu'on devrait ça. Accepter qu'en ce moment-là, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'être qui on a le droit d'aimer certaines choses et de ne pas aimer certaines choses, puis on a le droit d'être rendu à l'étape où est-ce qu'on est rendu et c'est correct.
Mm-hmm.
Fait que s'autoriser ça, je te dirais, c'est pas mal un des meilleurs conseils que je pourrais donner à quelqu'un parce que c'est seulement en acceptant avec une pleine humilité et authenticité qu'on est qui on est en ce moment qu'on peut se permettre ensuite de créer des fondations qui sont solides et basées sur la vérité. Ouais.
Puis je trouve ça fantastique ce que tu dis parce que c'est vrai, quand on veut devenir, même quand tu le deviens, t'as évolué. Fait que tu veux devenir une autre personne, tu seras jamais celui que tu veux devenir.
Exactement.
Ça s'atteint pas.
22 octobre 2016, je me suis réveillé, je me suis regardé dans le miroir, j'étais comme « Hey, c'est la meilleure version de moi-même, ça? » Non, non, ça n'arrive pas comme ça. T'sais.
Jamais.
Et voilà. Ouais, hey, merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci Manu, c'était un plaisir. Fait que tout le monde, allez suivre Man Lemay sur Instagram. Il y a plein de bons contenus, c'est incroyable. Partagez l'épisode, je pense qu'il y a eu de la belle valeur pour tout le monde là-dedans.
Et écrivez-moi pour votre cadeau.
Certains, écrivez à Manu, puis écrivez-moi si vous voulez qu'on parle ensemble aussi.
Yes, sir.
Yes, sir, Manu.
Merci.
Ciao.